notre méditation de ce soir. Je vais demander à la sœur Luboula de faire la prière et la sœur Sophie pourra nous faire la lecture de ce soir qui se trouve dans Ézéchiel chapitre 43, les 12 premiers versets. Commençons avec la prière.
Prions. Tendre Père, ce soir encore, nous sommes comme une biche qui soupire après le courant d'eau. Oui, notre âme, Papa, soupire après toi. Le fumet se soupire après toi, ô Dieu, car notre âme a soif de toi. Nous avons soif d'une grande intimité avec toi, toi notre Dieu, toi qui nous aimes. Papa, je prie que ces moments que nous passons en ta présence, tu nous donnes à mes frères, à mes frères, à mes sœurs, à tout un chacun qui est connecté, de près et de loin, à ceux même qui vont nous suivre à la radio, ô Dieu, que tu nous donnes, conformément à ta richesse, à la richesse de ta gloire, d'être fortement fortifié par ton esprit dans notre être intérieur. Tu nous connais, Seigneur, tu connais nos faiblesses. Et que nous soyons tous enracinés et fondés dans ton amour en portant des fruits dignes de toi. Père, dirige-nous. Nous sommes là. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons aussi mettre en pratique ta parole. Aide le modérateur d'aujourd'hui, Seigneur, que tu t'es choisi. Seigneur, qu'il puisse nous conduire selon toi. Et que l'honneur et la gloire te reviennent ce soir. Merci d'agréer notre prière. En Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Merci ma soeur pour la prière. Nous écoutons la lecture du texte. Ceux et celles qui nous rejoignent, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 43. Nous lisons les 12 premiers versets de ce chapitre. Sœur Sophie?
Oui, je vais lire. Ézéchiel 43, 1 à 12. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. Et j'ai tombé sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans les parvis intérieurs. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison. Et un homme se tenait près de moi. Il me dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois n'essuieront plus mon saint nom par leur prostitution, par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Ils mettaient leurs seuil près de mon seuil et leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi sué mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ces temples à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent les plans et qu'ils rougissent de leur iniquité. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, ses dispositions, sa disposition, ses issues, ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mettez-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances et qu'ils y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison. Sur les sommets de la montagne, tout l'espace qu'il doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Parole de l'Éternel.
Merci, ma soeur. Merci à notre Dieu d'avoir permis que cette parole nous atteigne ici aujourd'hui. Nous venons d'entendre la lecture. Bien-aimé, la méditation d'hier nous a laissé avec l'idée de la séparation du saint et du profane, séparer ce qui est saint de ce qui est profane. Et le peuple de Dieu, tout le long des Écritures, le peuple de Dieu a toujours été appelé à savoir différencier les choses saintes des choses profanes. Le peuple de Dieu est un peuple qui ressemble, qui doit ressembler à son Créateur, à son Seigneur qui est saint. C'est un peuple qui est toujours appelé à s'éloigner de tout ce qui peut entraîner la souillure ou la séparation. D'avec Dieu, nous nous souvenons de ce que le prophète Ésaïe a dit, une parole que nous répétons régulièrement dans Ésaïe
53.
Je vais mettre la source de ce bruit en mute. Le prophète Ésaïe nous dit bien souvent que, au fait, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu, ce sont nos crimes qui l'empêchent de nous écouter. Et c'est un peu sur ce ton-là que la méditation d'hier nous a laissé. Et nous voyons que une fois que la conscience est prise par rapport à cette réalité de différencier, distinguer le saint du profane, c'est alors que aujourd'hui le Seigneur parle maintenant du retour de sa gloire dans le temple. Il le fait voir au serviteur Ézéchiel de la même manière qu'Ézéchiel avait vu le départ de la gloire de Dieu du temple. Hein, nous nous souvenons, c'était au chapitre 10 et 11, nous avions vu comment Dieu s'éloignait du temple. Le temple peut être beau, grand, imposant, il peut être d'une beauté inimaginable, mais s'il est vide, s'il est délaissé par l'Éternel, ce n'est qu'un bâtiment ordinaire comme le reste. Donc, ainsi, le Seigneur quittait ce temple. Aujourd'hui, dans le chapitre 43, Dieu vient dans le temple et le Seigneur, vers la fin, il va alors dire à Ézéchiel, parle au peuple, va avec le plan de ce temple, va montrer au temple, au peuple, les dimensions de ce temple, le dessin qui a été fait, tout ce qui a été présenté, tout ce que tu as vu, présente-le au peuple et que le peuple rougisse de sa conduite. Et c'est une forme de repentance que Dieu exige, que Dieu attend du peuple. Et seule la repentance permet alors au Seigneur de revenir. En fait, comme aujourd'hui, c'est quand nous nous repentons et que nous revenons sincèrement au Seigneur que la communion entre Dieu et son peuple est rétabli, nous pouvons alors bénéficier de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est notre garantie contre l'ennemi, notre garantie contre la chute, notre garantie contre toutes sortes de mauvaises choses qui peuvent nous arriver. Quand Dieu est avec nous, nous sommes en sécurité. Voilà brièvement ce autour de quoi nous avons à méditer ce soir. Nous avons besoin de comprendre pourquoi Dieu avait quitté, pourquoi sa gloire avait quitté le temple, et dans quel contexte, comment est-ce que Dieu revient-il, et qu'est-ce que le peuple doit faire. Quels sont aujourd'hui, pendant que nous allons faire le partage ensemble, constamment ayons à cœur de répondre aux questions qui nous sont posées. Ce soir, nous en avons deux. Y a-t-il une promesse? Laquelle? Qu'est-ce que Dieu dit? J'y ajouterai même, comment est-ce que je peux bénéficier de cette promesse que Dieu fait? Et puis la deuxième question, ça va être, qu'est-ce que Dieu me révèle comme vérité ce soir? Ce texte, il peut avoir été écrit, ça fait des milliers d'années, mais c'est un texte d'actualité parce que c'est la parole de Dieu. Pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu me révèle au travers de ce que je médite ce soir? Voilà, frères et sœurs, nous sommes bien apprêtés maintenant pour pouvoir faire le partage de la parole de Dieu. Un rapide coup d'œil à ma liste m'indique que nous sommes tous des gens de la maison. Alors, nous pouvons... le texte n'est pas très long comme les jours précédents, donc nous pouvons y aller progressivement pour comprendre lentement, mais sûrement, ce que le Seigneur a à nous dire encore ce soir. Nous pouvons y aller verset par verset. Voilà, frères et sœurs, nous sommes prêts pour partager la parole. Pasteur José, vous avez la parole.
Merci beaucoup, pasteur. Bien-aimé, je suis au verset 1 et 2. Pour le deuxième verset, je prends une phrase. Le premier verset nous montre que l'homme qui était avec le prophète, l'homme me ramena aux poches orientales. Ils étaient là. Ils étaient sortis et maintenant ils le ramènent là-bas. Pourquoi? Que vois-tu? Que voit le prophète? Au verset 2, je vis alors la glorieuse présence de Dieu d'Israël venir de l'Est. Bien-aimé, le modérateur a bien introduit en disant que au chapitre 10 et 11, il y a eu le départ de la glorieuse présence de Dieu. Dieu est peut-être parti parce que le peuple a péché. Et maintenant, la présence ou bien la glorieuse présence de Dieu revient avant même qu'il y ait vraiment une véritable repentance, parce que le Seigneur va réclamer la repentance à partir du verset 10 et 12, mais déjà il est disposé à revenir. Bien-aimé, ce que j'apprends ici est que le Seigneur Dieu, il est toujours miséricordieux. Il est toujours miséricordieux à son peuple. Et c'est vrai, il est parent, il est père, on peut aussi l'appeler mère. Il est père parce que nous avons tous eu des parents. Et nous sommes aussi des parents, nous savons ce que cela veut dire la méchanceté de l'enfant. Nous avons été méchants, nous, et les enfants aussi sont méchants à notre égard. Mais quel est le genre de cœur avons-nous, parents? C'est un cœur miséricordieux et c'est le cœur de Dieu. Dieu est miséricordieux, décide de revenir pour accueillir ses enfants et leur donner des conseils, comme nous verrons. Dieu est compatissant et il nous demande aussi de l'être. Merci.
Merci de faire cette allusion aussi à notre attitude. Nous, bénéficiaires de la grâce de Dieu, sommes appelés à faire aussi grâce aux autres. Effectivement, le Seigneur choisit de revenir. Lui qui avait quitté, il était dépité effectivement par toute cette souillure dans laquelle le peuple s'était vautré. On le verra plus bien. Il va dire pourquoi il avait quitté. Mais là, il décide de revenir toujours par la même porte. Si nous regardons verset 19, chapitre 10, c'est par la porte orientale que la présence glorieuse de Dieu s'était éloignée du temple, et c'est par la même porte que le Seigneur revient et retourne vers son peuple. Nous avons des belles promesses, une promesse qui peut vraiment réjouir le cœur de tout croyant, de toute personne qui aime le Seigneur, on le verra plus loin. Et le Seigneur commence, en fait, c'est toujours lui qui initie l'action. Avant même que le peuple s'adonne au rituel de la repentance qui est manifesté ici par le rougissement de face, le Seigneur prend toujours cette initiative de venir pour parler à son peuple. N'est-il pas écrit, n'est-il pas dit dans la parole, frères et sœurs, que même la conviction de péché, ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel. Nous ne pouvons pas être convaincus de péché naturellement. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Et la conviction de péché ici, selon les Écritures, c'est le fait que nous ne croyons pas en Jésus-Christ. En d'autres termes, son œuvre, sa personne, son œuvre, si le monde n'y croit pas, c'est ça le péché. Et que tout ce que nous pouvons énumérer comme liste de péchés, ce sont les conséquences, les effets ou les fruits de ce manque de foi et de croyance en la personne de Jésus-Christ. Nous allons au fur et à mesure élaborer cela, au fur et à mesure que les commentaires viennent, nous continuerons dans ce sens-là. Je vais donner la parole à Papa Céline Mamatissi.
Merci, Papa José, pour la parole. Je suis aussi au verset 2. Et là, je vois la comparaison qui est faite de la gloire de Dieu. On dit, voici la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Est. Et sa voix était pareille au bruit de grosses eaux. Et la terre resplendissait de sa gloire. Donc, je me dis qu'on compare la gloire de Dieu au retentissement de la création, les eaux. Et nous pourrons même ajouter des tonnerres, nous pourrons ajouter beaucoup de grands bruits que nous entendons des fois dans les cieux, ou même quand il y a le volcan, ou quand il y a tremblement de terre, quand il y a des tonnerres. Tout cela peut nous montrer que la création, toute la création en fait, vibre à la gloire de Dieu. Mais c'est ceux qui connaissent Dieu qui doivent découvrir la gloire de Dieu au travers la création, au travers toute la nature. Nous devons apprendre à regarder, à voir, mais ça c'est vraiment la gloire de Dieu parce que c'est que des fois la nature présente, l'homme ne peut pas arriver à ce niveau-là. Donc, nous devons ouvrir les yeux pour réellement voir la gloire de Dieu au travers de la nature. Voilà la leçon que je tire quand on la compare aux eaux et au retentissement de la terre. Merci.
Merci, Papa Célé. C'est vrai, une comparaison faite avec des éléments qui nous entourent, les éléments de l'environnement, Dans le monde matériel, le monde physique, nous avons des choses qui sont impressionnantes et peut-être pour nous aider à comprendre comment Dieu se manifeste, souvent, bien des fois, c'est, disons, les exemples tirés de ces effets naturels, notamment le bruit des grandes eaux, quand on est au bord du fleuve, quand on est quand on voit les tonnerres ou quand on voit comment les forces de la nature opèrent, nous pouvons comprendre le caractère imposant de ces éléments et parfois la présence de Dieu, les réalités spirituelles vont, pour notre compréhension, elles vont être décrites avec des moyens des éléments de la nature que nous connaissons. Merci, Papa Céleste. J'ose croire que le numéro que je vois est celui de la sœur Rose.
Oui, Papa, c'est bien moi.
Vous avez la parole.
Oui, merci, Papa. Vraiment que Dieu m'aide, vraiment, parce que je parle vite. Hein. Là où on proclame la parole de Dieu, c'est la délivrance, hein. Et il y a des manifestations. Alors, si on ne témoigne pas, donc, je ne sais pas, ça c'est moi, hein. Si on ne témoigne pas, donc, il n'y a pas de délivrance. Je ne sais pas, il n'y a pas de délivrance. Mais pour moi, si je, quand je témoigne, c'est qu'il y a eu quelque chose. D'abord, hier, hein, je parle d'hier, en tout cas, je ne veux pas garder ça pour moi-même. J'avais témoigné le matin parce que j'ai une habitude là. Si on me fait quelque chose, si on me dit quelque chose et que je ne suis pas contente, là, je reste calme. Là, c'est la réflexion. Là, je ne parle plus. Là, je. Alors, j'avais témoigné de ça le matin déjà. Alors, quand je faisais la méditation. Arrivé au verset 13 et 14, Dieu commençait à me parler de la sainteté des choses saintes. Arrivé au verset 14, Dieu me dit, il me montre comment le sacrificateur, quand il entre pour le service du Seigneur, ils ont d'autres habits. Quand ils vont terminer, ils enlèvent ces habits-là pour aller s'approcher du peuple. Alors moi, Dieu me disait, il faut se séparer. Si je veux voir sa gloire, il faut se séparer ce qui n'est pas bon hein, et ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est la sainteté. Donc je dois vivre dans la sainteté et je verrai sa gloire. Là, c'était hier. Hein. Et j'ai senti, et quand le frère Mbala m'avait dit de lire la parole de Dieu, quand j'ai arrivé au verset 13 et 14, je sentais le feu en moi. Alors, après, je me suis dit, moi, j'ai dit, mais ça, c'est quoi? Alors, quand le pasteur José a intervenu, ah, là, j'ai compris directement que c'est le Seigneur vraiment qui me parlait. Quand le frère Thomas encore a intervenu, oh, c'est la confirmation. Quand le frère Mala me faisait le commentaire, c'est la confirmation. Quand papa sera, donc tous les intervenants, c'était la confirmation. Et j'ai eu la délivrance hein, j'ai eu la délivrance. Je me suis dit, alors je dois marcher dans la sainteté. Et je verrai la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, mon mari s'est confié à moi à cause de hier. Et ça continue. Donc, vraiment, j'ai béni le Seigneur. Non, c'est petit, hein, mais c'est grand. C'est grand pour moi. Vraiment, c'est une délivrance, vraiment. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen. Merci, ma sœur Rose. Merci. Que le Seigneur vous parle et chacun de nous, évidemment, tire aussi quelque chose de tout ce que le Seigneur nous dit chaque soir lorsque nous nous retrouvons ensemble. Nous bénissons le Seigneur de parler à chacun de nous d'une manière particulière et spéciale. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Je donne la parole à Maman Christine. J'écris voir une main.
Oui. Oui, papa, vous avez bien vu. Merci pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 1. Le verset 1, c'est la gloire, disons, le verset 2 plutôt. Et voici la gloire d'Israël, disons, le Dieu d'Israël, s'avançait de l'Orient. Moi, vraiment, c'est comme le Seigneur qui me rappelle, pas un rappel, mais je suis sûr que Dieu va faire quelque chose ce soir. Parce que, vous savez, la gloire avait quitté Jérusalem, vous savez, à cause de l'idolâtrie que son peuple exerçait au milieu d'eux. Et notre modérateur, disons, en introduisant, a parlé de ce qui s'est passé quand la gloire est partie, donc disons, comment la gloire était partie. Alors moi, je me dis, c'est, il se peut que parmi nous, ou moi ou vous, il y a quelqu'un par la vie de désordre, parce que c'est la vie de désordre, c'est le péché qui peut faire que la gloire de Seigneur peut quitter. Nous savons que le temple, c'est notre corps. Qu'est-ce que nous en avons fait de ce temple? Alors Dieu veut qu'aujourd'hui, parce que la seule raison qui va revenir, il va nous montrer un peu plus tard, c'est une repentance sincère. Et si nous nous repentons, bien-aimés, soyons sûrs qu'aujourd'hui, la gloire partie à cause de mauvais comportements que nous avons affichés envers lui va rentrer ce soir, pourquoi pas. Amen.
Amen, maman, amen.
Merci, maman Christine. Nous allons, au fait, progressivement, tout le long du texte, nous pouvons voir que le Seigneur confirme certaines paroles lorsque le peuple revient sincèrement à lui, lorsque le peuple décide de s'engager, de se détourner du mal pour revenir à Dieu, le Seigneur opère. N'est-il pas écrit, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. En d'autres termes, lorsque nous comprenons que par notre conduite coupable, nous nous sommes rendus malheureux, et que dans notre détresse, étant en train de vivre la misère, si nous crions vers lui comme le psalmiste dit, le Seigneur nous écoute, le Seigneur revient vers nous. Le pasteur José en a parlé tout à l'heure, c'est un Dieu miséricordieux, il n'est pas semblable aux autres, à toutes les autres divinités. C'est vraiment un père qui a le cœur pour ses enfants. Il veut le voir revenir à la maison. Merci, Maman Christine. Papa José, vous avez la parole.
Oui, merci, frère. Encore au verset 2, à la fin, je vois le deuxième caractéristique de cette glorieuse présence de Dieu, c'est la lumière. Elle, c'est la présence de Dieu, illuminait la terre de sa clarité. Ici, nous voyons qu'il s'agit de Dieu lui-même parce que chaque fois que l'Écriture parle de la présence de Dieu, il y a toujours la lumière. Même les anges qui l'envoient quand ils arrivent auprès des hommes, il y a toujours la lumière. Les hommes ont peur de cette lumière. Et le Seigneur Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Et cette lumière est vraie. Cette lumière est vraie et elle nous a été demandée de la voir. Nous sommes la lumière du monde. Nous qui avons cru en Jésus, nous sommes la lumière et notre lumière nécessairement doit briller autour de nous pour que les autres puissent venir à notre Dieu qui est la véritable lumière. Merci.
Merci. C'est vrai, Dieu est lumière. Pendant que le pasteur parlait, j'ai réalisé effectivement que pour éclairer, Dieu n'a pas besoin lui-même du soleil, de la lumière du soleil. Lui-même est lumière. Dieu ne dépend pas des éléments qu'il a créés. Il est lui-même la source de lumière. Donc la terre resplendit de la gloire de Dieu. Et dans ce monde qui est un monde de ténèbres, le Seigneur Jésus nous a établi, et le pasteur René de le répéter, nous sommes la lumière. Jésus ne dit pas nous serons la lumière, il dit vous êtes la lumière, vous êtes le sel de la terre. Et je me dois effectivement de briller dans ce monde afin que d'autres, en voyant cette lumière, qu'ils viennent aussi à connaître Dieu comme je le connais aussi. Le verset 3, Ézéchiel va expliquer, va dire que la vision qu'il voit, c'est en fait c'est une vision semblable à celle qu'il avait eue au début, lorsque c'était le moment de la destruction, la destruction qui a aussitôt commencé au moment où la gloire de Dieu s'était éloignée du temple. La dernière phrase de ce verset, dans ma version du second 910, il dit « Et je tombais sur ma face ». C'est comme si le prophète me dit à moi « Tu ne peux pas expérimenter la présence de Dieu de cette manière-là et rester encore sur tes pas ». Inévitablement, dans notre humanité si frêle et fragile, lorsqu'on est confronté à la présence glorieuse de Dieu, inévitablement, on faillit et on tombe. Mais il tombe ici, pas comme quelqu'un qui tombe n'importe comment, mais il tombe sur sa face, un signe d'adoration, un signe de crainte. Un peu comme lorsque nous voyons, même en présence d'autres êtres célestes, donc à part Dieu, parfois nous avons eu des serviteurs, des servantes, qui en présence de ces êtres célestes, ils sont tombés aussi sur leur face. Mais ces êtres, quand ils sont des dieux ou quand ils viennent de la part des dieux, ils n'acceptent pas l'adoration humaine, un peu comme dans le cas de Jean. Mais on voit, quand il s'agit de Dieu lui-même, le prophète tombe sur sa face. Il ne peut pas se tenir debout devant une telle splendeur. Une pareille expérience. Je ne dis pas que c'est seulement voir une lumière physique. Non, lorsque nous sommes en présence de Dieu à l'église, dans l'adoration, dans un moment de pure intimité avec Dieu, comment je réagis? Donc cet exemple du prophète qui ne peut pas rester lui-même debout en présence de cette présence glorieuse est pour moi un exemple éloquent, de manière que je dois me laisser aussi influencer par cette présence glorieuse de notre Dieu. En fait, c'est une présence non seulement glorieuse, pour moi, elle est aussi apaisante, elle est rassurante, elle est confortante, elle est protectrice. C'est ainsi que je peux en tout cas me sentir vraiment à l'aise devant cette présence. Je vais donner la parole au frère Franck.
Merci, Dr. Mbala. Je suis au verset 7 où la voix dit au prophète, « C'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. » Pour cette première partie du verset 7, juste je vois la leçon que ce temple, c'est un temple qui serait définitif, un temple qui serait éternel. Pour dire qu'on a vu comment la gloire de l'Éternel est partie avec l'arc, quand il a permis que les Philistins prennent l'arc, et puis quand le temple à Jérusalem a été détruit. Maintenant, il y a le temple qui va venir, qui serait un temple éternel, un temple où Christ, Dieu va habiter. Et ceci me dit, me parle de la venue du Christ. Est-ce qu'en ce moment-là, Christ, quand il va venir maintenant, pour regarder la deuxième partie du même verset, où dit « La maison de l'Éternel et ses rois ne souilleront plus mon sein, non par leur prostitution. » Juste pour dire que, est-ce que moi-même, mon corps étant le temple du Saint-Esprit, est-ce que je me prépare pour que le jour où Christ va revenir, pour que je puisse être parmi ceux qui se réjouissent de son retour, où je serai parmi ceux qui vont fuir pour chercher, commencer à demander même que les montagnes tombe pour me couvrir, me cacher, parce que je ne pourrais pas tenir devant cette gloire de l'Éternel, la gloire qui est venue pour l'éternité, qui revient pour l'éternité. Parce que cette gloire, quand elle va venir, elle va m'exposer, exposer ma nature, tout ce que j'ai fait pendant toute ce temps, ma vie sur cette terre, tout sera exposé par cette gloire. Et si j'ai été dans la, je suis demeuré dans j'ai embrassé les choses saintes. J'ai cherché à être saint comme il est saint. À ce moment-là, je serai dans la joie. Autrement, je serai parmi ceux qui vont fuir pour chercher à ce que les montagnes tombent pour nous cacher. Que Dieu puisse bénir sa parole.
Merci, frère Franck. Papa Thomas, vous avez la parole.
Oui, je toujours sur la gloire de Dieu, verset 4 et 5. Il est dit que la gloire de Dieu s'avance, c'est-à-dire c'est une gloire qui se déplace, parce que ça s'avance vers une maison par le porche. Et l'Esprit de Dieu, au verset 5, va enlever les serviteurs de Dieu pour l'amener maintenant, et la gloire de Dieu maintenant remplissait la maison. Donc je trouve que la sanctification, la sainteté, la pureté de cœur, c'est un aimant qui attire la gloire de Dieu. Finalement, je trouve que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, mais elle se déplace vers le peuple saint. Quand je me sanctifie dans ma maison, la gloire de Dieu s'avance vers la maison. Elle vient dans ma maison, elle vient dans mon travail, elle vient dans mon mariage, elle vient dans mes études, elle vient dans mes affaires parce qu'il y a la sanctification dedans. Puisse Dieu m'aider à vivre une vie de sanctification parce que finalement, ça va faire que la gloire de Dieu s'avance vers ma maison. Je veux vivre saint puisque le Seigneur est saint. Voilà un peu ce que je retiens dans ceci. La gloire de Dieu, elle ne vient pas seulement comme ça par hasard, elle se fait attirer par la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu.
Merci beaucoup, frère. Comme il est écrit, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc, si nous nous gardons, nous voulons, nous désirons marcher dans la pureté, le Seigneur nous accueille aussi. Merci beaucoup, frère. Papa Gaston, vous avez la parole.
Merci, pasteur José, pour la parole. Je suis au verset 9 et je ferai un petit crochet au verset 7. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne parlent pas le même langage. Ils éloigneront de moi leur prostitution. Que j'éloigne, je m'éloigne du péché, je me décide de poursuivre, de demeurer, de poursuivre la sanctification et je verrai la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Et même si Dieu garde silence parfois, Cela ne veut pas dire qu'il ne voit pas, qu'il est incapable d'intervenir. Mais tout ce temps-là, il accorde pour que je me repente. Dans Ézéchiel chapitre 8, je vais lire des passages 8-6. Les grands fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Et au verset 12, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Que je sache qu'à tout moment, l'Éternel voit tout ce que je fais, et pour que je demeure dans sa gloire, que je puisse me sanctifier totalement. Dans le verset 7, je prends la dernière partie. Par les prostitutions et par les cadavres de leurs rois sur leurs hauts lieux. C'est à partir de ces hauts lieux qu'ils faisaient tous les sacrifices pour éloigner la présence de l'Éternel. Maintenant, si je veux marcher, demeurer dans la gloire, voir la gloire de l'Éternel, je dois marcher, comme notre bien-aimé le disait, Dieu est saint et moi qui vais travailler avec le Seigneur, je dois être saint. Y a-t-il des hauts lieux que j'entretiens encore dans ma vie? Quels sont les hauts lieux qui poussent ou qui suscitent la colère de l'Éternel pour que j'éloigne l'Éternel de ma vie, dans ma communauté, au sein de ma famille et dans ce que je fais? Amen.
Amen. Avant que je donne la parole à Papa Chélé ou Maman Christine, je voudrais, dans le texte, effectivement, comme le frère venait de le dire, le Seigneur nous parle de prostitution et des abominations que le peuple a commises. Et puis, le texte que le frère venait de nous lire aussi dans Ézéchiel 8, il vient expliciter effectivement en quoi cette prostitution consistait. Il s'agit au fait de l'abandon des dieux au profit des divinités étrangères, au profit de d'autres dieux, peut-être qu'ils ont emprunté aux nations qui les entourent. Lorsque le Seigneur est abandonné, lorsque Dieu n'a plus sa place, c'est vrai que souvent nous aimons dire qu'il faut que Dieu ait la première place, ce qui est vrai. Je préfère aussi dire qu'il faut que Dieu ait toute la place. Lorsque le Seigneur n'a plus cette place-là dans notre vie, alors nous sommes dans la catégorie de ceux et celles qui pratiquent la prostitution. Parce qu'il s'agit d'abord ici de la prostitution spirituelle. En d'autres termes, délaisser Dieu au profit d'une autre divinité. Il est possible qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas d'autres divinités avec des noms bien spécifiés, mais il peut s'agir aussi de toute personne, de toute chose ou de tout acte qui prend toute la place de Dieu dans ma vie. Ça peut être travail, ça peut être loisir, ça peut être l'argent, ça peut être n'importe quoi d'autre qui prend vraiment toute la place, qui prend la place qui revient à Dieu. Ça, c'est une prostitution spirituelle. C'est pour cela, frères et sœurs, c'est mieux que nous comprenions aussi cela, parce que si nous ne les saisissons pas, nous risquons aussi de connaître ce que le peuple d'Israël a connu ici. Merci beaucoup, Papa Gaston, d'avoir lu ce texte qui vient encore expliciter ce que nous comprenons ici. Merci. Je donne alors la parole à Papa Céléon Christine.
Oui, merci encore pour la parole, Papa José. Au verset 5, le prophète va voir combien l'Esprit de Dieu va l'enlever et le conduire dans le parvis intérieur du temple. Et voici, il va avoir cette même gloire de Dieu qui va remplir toute la maison. Donc la gloire de Dieu peut remplir toute la maison. Et quand je me rappelle ce que Paul écrivait concernant le temple de Dieu qui est notre vie, il disait au peuple de Dieu, ne savez-vous pas, au verset 19 de 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas ceci, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas vous-même. Et le verset 20 va montrer aussi cette gloire en disant, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc la gloire de Dieu peut se manifester comme nous voyons le temple rempli de la gloire de Dieu. Nous pouvons aussi voir la gloire de Dieu, nous-mêmes glorifier Dieu dans notre corps, dans notre temple qui appartient vraiment à Dieu. Voilà comment je comprends cela dans la nouvelle alliance, comment cette gloire peut se manifester encore chaque jour dans notre vie. Et plusieurs ont déjà parlé de la sanctification. Nous pouvons ajouter la plénitude du Saint-Esprit. Nous pouvons ajouter mettre Dieu, élever Dieu sur son trône chaque jour dans l'adoration, dans la louange. Et tout cela, nous pouvons glorifier Dieu avec notre temple qui est son corps. Amen.
Amen. Merci, Papa Célé. Un texte auquel je voulais faire aussi allusion, effectivement. C'est un des textes qui nous parle encore à nous aujourd'hui sous le Nouveau Testament, qui nous montre clairement que nous sommes le temple de Dieu et que le temple de Dieu doit être pur, doit être saint comme Dieu est saint. Merci beaucoup. Papa Gaston a parlé tout à l'heure des hauts lieux qui sont aussi mentionnés dans le verset 7. Y a-t-il des hauts lieux encore dans ma vie? Ça veut dire des lieux où des sacrifices sont offerts à des divinités autres que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, notre Sauveur. Y a-t-il dans notre vie des situations, des personnes ou même des activités qui ont tellement d'importance à nos yeux, au point que s'il y avait un choix à faire entre Dieu et ces choses-là ou ces personnes-là, si j'ai choisi cette personne-là ou ces choses-là, alors il y a encore un haut lieu dans ma vie. Nous pouvons très facilement dire que non, on n'en a pas, mais lorsqu'il est question, il est temps peut-être de faire quelque chose pour Dieu, de prendre le temps pour prier ou pour adorer le Seigneur ou pour lire la parole. Y a-t-il quelque chose qui vient ou bien que je privilégie avant? C'est à travers ces petites choses que nous pouvons voir s'il y a encore des hauts lieux dans nos vies ou pas. S'il y en a, frères et sœurs, nous sommes appelés à nous déterminer à les détruire, à les renverser de manière résolue. De manière résolue qu'on se dise, je ne veux plus de haut lieu dans ma vie, je ne veux pas d'un autre Dieu dans ma vie, je ne veux pas d'une autre divinité dans ma vie, je ne veux que rien, que personne ne prenne ma place qui est réservée à l'éternel Dieu qui est mon Rédempteur, mon Créateur et mon Seigneur. Si tel est le cas, alors nous faisons le ménage à nous-mêmes et la gloire de Dieu va encore revenir, va apparaître encore. Je lisais il y a un certain temps, j'ai lu ce texte qui me ramène constamment vers le Seigneur et qui me redonne encore de l'espérance parce qu'on fait allusion. On y faisait allusion à un homme, un ivrogne, qui a tout détruit dans sa vie. Il a détruit sa famille, sa carrière, il a tout détruit à cause de l'alcoolisme. Et un soir, dans un moment de lueur, il va dire à Dieu, « Seigneur, même d'une épave, tu peux en faire un joyau pour ta couronne. Regarde où je suis tombé, où je suis arrivé, mais dans ta grâce, même d'une épave comme moi, tu peux en faire un joyau pour ta couronne. » Et le Seigneur n'a pas tardé d'agir dans la vie de cette épave qui est devenue, au fait, un joyau pour la couronne du Seigneur. Dieu libère, Dieu délivre, le Seigneur appelle, le Seigneur entend. Lorsque nous, du fond de l'abîme ou du fond de là où nous sommes tombés, là où nous nous sommes adonnés à toutes sortes de prostitutions, là où nous avons abandonné Dieu pour nous faire plaisir ou pour acquérir telle ou telle autre chose, si du fond de l'abîme nous crions sincèrement à Dieu, cette gloire qui était peut-être sur nous avant, cette gloire qui s'était éloignée, cette gloire peut revenir encore. Le Dieu qu'on nous a présenté ce soir, frères et sœurs, dès le commencement, on nous a rappelé que notre Dieu est miséricordieux. Il prend l'initiative de revenir vers son peuple en l'avertissant, en lui faisant voir pourquoi il avait quitté, pourquoi il s'était éloigné de lui. Et si le peuple comprend cela, le Seigneur dit, mais voici, je suis encore prêt à revenir, à vous redonner la gloire qui était la vôtre avant. Je suis encore prêt. Deux fois dans ce texte, au verset 7 et au verset 9, le Seigneur dit, il fait une promesse qui est pour moi la merveilleuse des promesses. Le Seigneur dit, j'habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. J'habiterai éternellement avec vous. Comme le Seigneur l'a dit encore dans le Nouveau Testament, que si je m'en vais, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de Dieu, qui demeurera éternellement avec vous. Et lorsque la parole de Dieu dit éternellement, ça veut dire pour toujours. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour que Dieu nous abandonne. Pour nous qui sommes encore en Christ, Christ a été délaissé pour que nous ne le soyons plus, frères et sœurs. Christ a été abandonné pour que tu ne le sois jamais plus. Christ a été maudit pour que toi, tu sois béni. Il a porté sur lui nos péchés, l'iniquité de nous tous, afin que toi, tu sois mis à part et accepté de Dieu. Il est écrit de Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il a été fait péché pour nous, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. » Et maintenant, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons des certitudes, nous avons des promesses de la part de Dieu, que si nous voulons, si nous sommes dociles, si nous avons de bonnes volontés, vous savez, frères et sœurs, Dieu nous fera manger les meilleures productions du pays. Pas les bonnes, non, les meilleures productions du pays, autant spirituellement que matériellement. Nous bénissons le Seigneur pour cette promesse encore aujourd'hui, que toutes ces paroles, toutes ces promesses entendues, ces exhortations, que toutes les paroles présentées nous aident à revenir à la maison du Père, parce que lui est déterminé, décidé, compatissant à revenir aussi vers nous, à nous redonner la gloire qui était la nôtre. Et ainsi, nous pouvons toujours marcher avec lui, de gloire en gloire. Voilà pour ce soir, frères et sœurs. Papa Céleste, que nous avons des annonces.
Oui, papa, je veux juste saluer les frères et sœurs qui sont à la radio avec nous, depuis Alberta, Québec, Missouri et Massachusetts. Nofkalorana aussi, et aussi nos prières et toute la sensibilisation des enfants de Dieu sur les camps qui arrivent. Nous bénissons le Seigneur pour la famille de Dieu qui est mobilisée pour ce grand événement. Merci.
Merci beaucoup. Alors, frères et sœurs, je vais donner la parole à Gaston, qui peut faire la prière finale pour nous.
Notre Dieu, tu nous aimes tant, tu nous aimes, et ce soir, une fois de plus, tu viens d'éprouver, de nous prouver cet amour. Nous avons commis des abominations d'une manière consciente dans le but de t'éloigner de notre présence. Nous avons préféré les ténèbres à la place de la lumière. Mais Éternel, dans ton amour, dans ta compassion, tu as eu pitié de nous. Et Éternel, tu reviens. Tu nous montres là où nous étions fautifs et tu nous restaures. Tout ce que tu nous demandes, c'est un cœur repentant, que nous revenions à toi afin que nous ne puissions plus vivre dans cette disette. Nous ne puissions plus vivre dans cette souffrance, mais que nous puissions demeurer dans ta gloire et que ta gloire rayonne dans nos vies, dans nos familles, dans toutes nos entreprises et que le monde voie et sache combien et comment tu nous aimes. Papa, nous te rendons grâce, mais tu veux que nous fassions notre part. Que nous puissions demeurer dans la sanctification et que nous puissions la poursuivre. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, que nous sachions te mettre toujours et t'accorder la première place dans tout ce que nous faisons, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Sois béni, Éternel, notre Dieu. Éternel, ce que tu viens de nous transmettre ce soir, que nous puissions les garder. Que ce ne soient pas des paroles qui entrent par une oreille et qui sortent par l'autre, ou que ce soient des paroles pleines de réactions épidermiques, d'émotions, mais que ce soient des paroles qui porte des fruits dans la vie de tout un chacun de nous, afin que par notre marche avec toi, le monde sache et voie que réellement nous sommes les enfants de Dieu et nous marchons comme notre Père levé, comme notre Père marche. Garde tout un chacun de nous, Seigneur. Là où il y a encore de la résistance, là où nous ne parvenons pas encore à prendre de décision. Là où nous pensons que si nous prenons telle décision, nous allons mourir, nous allons tout manquer. Seigneur, que par la puissance du Saint-Esprit, nous soyons convaincus que la vie véritable ne réside pas dans ce monde. La vie véritable ne réside qu'auprès de toi. Et que nous fassions ce sacrifice, que nous prenions cette décision de détruire tous ces hauts lieux qui entravent notre marche et qui nous empêchent de voir ta gloire dans tout ce que nous faisons. Garde-nous fidèles à toi, notre Dieu. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha couvre toutes les familles qui sont à la radio et toutes les familles qui sont sur ce plateau et toutes les familles qui nous suivront en différé, afin que nous puissions croître et que nous puissions marcher ensemble avec toi. Merci pour l'instrument qui t'était choisi ce soir pour nous canaliser. Nous recommandons ainsi le pasteur José entre tes mains et les lourdes responsabilités que tu lui as confiées pour ton œuvre entre tes mains. Seigneur, que tu le bénisses, tu le fortifies et tu puisses être avec lui dans tout ce qu'il entreprend pour ta gloire au Éternel Dieu de ça. Bénis tout un chacun de nous, fortifie-nous, que nous ayons confiance en toi, que nous te fassions confiance en tout temps et en tout lieu, maintenant et à jamais, pour ta seule gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen.
Amen. Merci frère. Pour demain, nous allons finir le chapitre. Nous irons du verset 13 jusqu'au verset 27 et nous aurons encore deux questions, questions 5 et 8, pour nous aider à méditer. Merci beaucoup, frère, pour la prière. Bien-aimé, bonne soirée à tout le monde et à demain.
Merci.